Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus pour cette deuxième heure d'émission. Bonjour si vous nous rejoignez. C'est la légende d'un petit héros que nous partageons ce matin avec vous, Julie, et avec vos commentaires au Standard d'Europe 1. Astérix qui fête ses 60 ans, un 38e album en préparation, une série d'éditions spéciales, un festival de la BD à Angoulême qui très vraisemblablement parlera gaulois. L'occasion pour nous de nous intéresser à la modernité du personnage. Pourquoi marque-t-il encore les lecteurs? Pourquoi est-ce la BD française la plus lue à l'étranger? Eh bien, on fait le tour de la question avec un spécialiste du genre, Mathieu Charrier d'Europe 1, nos différents invités et vos appels, je vous le disais,
au Standard, ouais, au 3921.
Sur Twitter également, n'hésitez pas, vous êtes nombreux ce matin.
Voilà, avec l'hashtag Europe 1.
Bienvenue jusqu'à 11h.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non ! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme.
Et la voix de Pierre Tchernia pour cette entrée en matière. Jules César, fort contrarié de voir une petite région mettre en échec son armée. Nous sommes... Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Le 29 octobre 1959 et Astérix le Gaulois est né, prépublié dans la revue Pilote et publié ensuite dans un album en 1961. Et donc demain, pour entamer cette année spéciale Astérix, sa toute première aventure est rééditée. On revient aux origines, celle que nous racontait Pierre Tchernia, c'est Astérix le Gaulois.
Oui, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, quand Uderzo et Goscinny décident de créer une histoire, au départ, ils pensent créer une histoire autour de la préhistoire, justement. Ils se disent, tiens, il faudrait chercher des petits personnages préhistoriques, sauf qu'ils se rendent compte que ça a déjà été fait en bande dessinée. Et c'est comme ça qu'ils disent, ah tiens, attends, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait ? Oh ben la Gaule, on va faire un petit personnage gaulois qui résiste à l'envahisseur. Et c'est comme ça qu'Astérix naît. Vous parliez du tout premier album, il est tiré à quelques milliers d'exemplaires.
Ouais, c'est tout petit. Hein.
Quand Uderzo et Goscinny vont voir leur éditeur et leur disent « Mais si on en vend 5000, qu'est-ce qui se passe ?» Il leur dit « Attendez, s'il y a déjà d'en vendre quelques centaines et après on verra. » Aujourd'hui, on est à plus de 300 millions vendus dans le monde. Je crois qu'ils ont réussi leur pari.
Ah, je crois bien. L'édition luxe va ravir aussi oui. les aficionados d'Astérix. Intégrale de 44 planches originales en noir et blanc d'Albert Uderzo pour accompagner cet anniversaire.
Oui, Uderzo. Alors, vous savez, pour le rappeler à nos auditeurs, mais il y a Goscinny évidemment qui est au scénario, Uderzo au dessin.
Qui est décédé très tôt, en 77.
Uderzo, et c'est Uderzo qui a dû gérer un petit peu l'héritage, avec la fille de M. Goscinny, qui a dû gérer l'héritage et qui a dû continuer à faire vivre ce petit Gaulois. Alors, on lui a reproché beaucoup de choses à Uderzo, notamment quand Astérix était devenu papa, vous en rappelez,
oui.
Quand aussi il nous avait fait débarquer des soucoupes volantes dans un album. En attendant, on peut critiquer certains de ses choix éditoriaux à certains moments, mais il a quand même réussi à faire perdurer la vie de ce petit Gaulois avec son dessin qui est tout simplement fabuleux.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est de revenir aux origines, Mathieu, parce que dans ce premier album, Astérix le Gaulois, on trouve déjà les personnages essentiels. Astérix qui se débarrasse en deux coups de poing des légionnaires romains, qui invite son ami livreur de menhirs à le suivre dans la quête du druide, le fameux Panoramix, parce qu'il a besoin de Guy pour sa ration de potions magiques. Le décor est planté dès le premier album.
Le décor est planté, et là aussi, au départ, figurez-vous qu'Obélix ne devait pas faire partie de l'aventure. C'est-à-dire que quand il crée ce personnage, Uderzo a une idée et dit à son copain Goscinny « Mais t'as créé ce petit Gaulois, est-ce que tu crois pas qu'on devrait créer un duo et avoir un espèce de personnage à côté un petit peu plus rond ?» Et quand vous regardez, dans les formes, l'un et l'autre, on les retrouve dans leur personnage. Parce que Uderzo, c'est comme ça un grand bonhomme un peu baraque qui ressemble un petit peu à Obélix, toute proportion gardée. Et Goscinny, c'est un petit peu Astérix. Et s'il n'y avait pas eu ce duo-là, ça n'aurait pas fonctionné. Vous remarquez, dans la bande dessinée, c'est toujours des duos qui ont marché. Tintin et Milou, Lucky Luke et Joey Jumper, Boule et Bill, Black et Mortimer. C'est parce que vous pouvez créer toute l'aventure que vous voulez. S'ils ne sont pas deux pour pouvoir se répondre, se chambrer, etc., bah, c'est un petit peu fadoche.
Ça manque de rythme. Julie.
Non, la trouvaille, je trouve, moi, c'est la déclinaison de tous les noms en X.
En X.
Voilà, Astérix, Panoramix, Obélix, Idéfix, Assurance Tourisme.
Ça, c'était pour plaire aux
c'est
enfants.
C'est formidable.
Et effectivement, c'est une idée toute bête géniale. Au départ et qui voilà, cartonné, qui a permis ça à tout le monde de retenir tous ces noms. Idéfix, par exemple, le petit chien.
Le petit chien.
Idéfix, c'était justement les lecteurs du journal Pilote. Il y a eu un appel en disant « Tiens, on va créer un petit chien pour une aventure. » Aidez-nous à trouver son nom. Les lecteurs avaient trouvé le nom d'Idéfix. Et il y a eu tellement de courriers après pour que le chien reste dans l'aventure. qu'Idéfix est resté, que c'est devenu ce petit personnage d'Obélix qu'on a tous en tête, parce que là aussi l'opposition graphique est excellente entre le gros Obélix et son petit chien. Et
d'ailleurs, Idéfix va être la vedette de 52 épisodes de 11 minutes sur France Télévisions.
Une série animée qu'on découvrira dans quelques années.
Voilà, l'année prochaine, 2020, c'est ça. Pour amener justement un autre public encore à découvrir Astérix, quoique Astérix, c'est 77 ans.
C'est surtout que je pense sincèrement, je prends nos auditeurs à témoin, mais que dans chaque foyer français, il y a un Astérix qui traîne dans un coin, vous savez. C'est-à-dire qu'on vous a offert, que vos grands-parents vous ont donné, que l'oncle vous a refilé un moment. Et on a tous un album d'Astérix, un peu comme Tintin. Et c'est ça qui aussi fait que la bande dessinée continue de bien fonctionner chez les jeunes, c'est que je pense qu'il y a, dans les foyers français, encore cette culture comme ça de l'album qui traîne. Et que le gamin, à un moment, se retrouve dans le salon ou dans une autre pièce de la maison, va prendre cet album et va découvrir cet univers coloré dans lequel, franchement, on est obligé de plonger, on ne peut pas résister.
Alors dites-nous si c'est le cas pour vous au 39-21. On vous attend alors qu'Astérix fête ses 60 ans et que le festival de BD d'Angoulême qui s'ouvre dans 2 jours va forcément lui rendre hommage. On va en parler. Comment on explique la modernité de ce petit héros moustachu au-delà de la trouvaille, en effet, des noms en X qui ont fait le succès aussi de cette BD de génération en génération. A tout de suite avec Julie et Mathieu Charrier et nos invités.
Avec Julix.
Julix.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous revenons sur le succès légendaire des aventures d'Astérix, notre petit Gaulois qui fête ses 60 ans. Pourquoi représente-t-il si bien la France à l'étranger ? On fait le tour de la question jusqu'à 11h avec Wendix Bouchard et ses invités.
Mathieu Charrier, spécialiste BD pour Europe 1. Bernard-Pierre Molin qui nous rejoint, écrivain et auteur d'Astérix, les vérités historiques expliquées aux éditions du Chêne. Alors vous entendiez le générique d'Astérix le Gaulois 1967 à la télévision française. Mathieu Charrier, c'est vrai qu'il y a eu non seulement les albums mais tout un tas de produits dérivés, les films pour la télé, pour le cinéma.
Uderzo et Goscinny, ils avaient la prétention de devenir le Walt Disney français. Et quand ils avaient fondé les studios Idéfix, du nom de célèbre chien, il y avait du boulot.
Parce que quand on voit les dessins animés...
Et oui, ils avaient créé un studio, mais qui était fabuleux à Paris. Ils avaient des dizaines d'employés, c'était parti, ils allaient produire des dizaines de films. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Walt Disney, lui, il avait toujours un coup d'avance. Qu'il avait tellement de personnages quand il était en train de développer un dessin animé, il pensait déjà au suivant. Astérix, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait trouver des histoires, etc. Et donc, au bout de quelques années, malheureusement, les studios Idéfix ont disparu. Mais à l'époque, ils avaient vraiment la prétention de dire « Nous allons être le Walt Disney français ».
60 ans plus tard, on parle d'Astérix. Bernard-Pierre Molin, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous qui êtes très, très loin, vous êtes en Nouvelle-Zélande et c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour Bernard-Pierre.
Oui, bonjour, effectivement. Il fait nuit et il fait 32 degrés ici.
Voilà, mais non, alors que nous sommes à la neige qui nous entoure et qui nous
perturbe.
Mais c'est bon de parler de France et de Gaulois depuis la Nouvelle-Zélande, c'est original. Bernard-Pierre, vous qui avez donc écrit sur les vérités historiques expliquées d'Astérix, Astérix 60 ans après, qui va être honoré au Festival d'Angoulême, qu'est-ce que ça vous inspire d'abord sur la permanence de ce succès?
C'est un succès que je comprends vu que moi il a bercé toute mon enfance. Je suis un peu plus jeune qu'Astérix, mais je l'ai quand même découvert très tôt. Mm-hmm. Et je suis absolument ravi de travailler aujourd'hui sur cet univers, car c'est plus au-delà du personnage et c'est vraiment un univers qui a été créé par Goscinny et Uderzo et que font perdurer les Conrad et Ferry aujourd'hui. Il y a une richesse comme ça de personnages, d'humour, d'imaginaire, d'invention, de fantaisie. C'est formidable.
Avec des anachronismes revendiqués, avec des libertés évidemment prises avec l'histoire. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que leur idée, parce que tout à l'heure Mathieu nous disait, ils avaient envie peut-être de se fondre dans la préhistoire, c'est qu'ils ont quand même adapté finalement tous nos sujets de société à cette période antique, 50 ans avant Jésus-Christ. C'est pour ça peut-être que c'est resté si moderne.
Alors, je ne sais pas s'il y a un tel parallèle. Je crois qu'ils ont vraiment créé, ils sont partis, les auteurs, d'un moment de l'histoire qu'on connaissait finalement assez mal, puisque pour beaucoup, les Gaulois, notamment dans les années 60, on ne savait pas grand-chose des Gaulois, en vérité. Hein. Les Gaulois, ils avaient 3 défauts principaux. Ils n'écrivaient pas, donc ils ont laissé aucune trace. Oui. Ils construisaient en bois, donc ils n'ont pas laissé de vestiges. Et en plus, ils ont perdu la guerre. Ce qui est quand même trois raisons qui font qu'on a tendance à être un peu les oubliés de l'histoire. Et ils ont été réinventés au XIXe siècle par la Troisième République, plus pour des raisons politiques. Je parle des Gaulois, hein, je parle pas d'Astérix. Mmh. Et cette vision du Gaulois, moustachu, dans sa hutte, au milieu de la forêt, etc. Voilà, c'est courageux, brave. Bon, il l'était, hein, certes, c'était de fameux guerriers, mais aussi d'excellents éleveurs et cultivateurs. Elle a perduré pendant longtemps, et encore très vivace auprès de beaucoup de gens. Et mais les Gaulois, c'est pas plus nos ancêtres que les Romains, les Francs et tous les gens pour peupler la terre.
On y viendra justement sur ce qu'il y a d'Astérix en nous. Mais Goscinny disait de sa petite créature, Mathieu Charrier, Astérix, c'est le petit teigneux, l'archétype du Français moyen, râleur, mais malin et débrouillard. Alors c'est vrai que moi j'avais pas. Il est vraiment râleur, Astérix. J'ai pas cette
Astérix,
image.
Astérix, il est toujours en train de se plaindre de tout. Justement, toujours en train d'engueuler le pauvre Obélix, qui lui est le bon, vous voyez, le bon copain,
bougre,
qui est le bon bougre, voilà, qui est là pour aider, bon, qui aimerait bien boire un peu de potion magique, mais il n'a pas le droit. Astérix, oui, dans les albums, mais c'est un peu good cop, bad cop. Dans tous les duos, il y a cette nécessité.
C'est le père la rigueur.
Lui, c'est le père la rigueur, c'est celui qui mène tout le monde à la baguette, qui mène le village à la baguette, qui mène la révolte à la baguette. Et oui, c'est un râleur, Astérix, mais c'est pour ça qu'on l'aime, d'ailleurs.
Astérix de 9 mètres de haut qui va accueillir les visiteurs du festival d'Angoulême. Ça, c'est prévu, je crois qu'il y a pas mal de surprises. Évidemment, ces 60 ans ne pouvaient être que fêtés pour ce festival de la baguette.
Oui, ils étaient obligés, entre guillemets, de lui rendre hommage. Alors, il va y avoir effectivement cette statue géante, il va y avoir différents endroits avec des animations autour d'Astérix, mais il n'y a pas de vraie grosse exposition, puisqu'ils avaient déjà rendu hommage il y a quelques années avec la présence justement de Monsieur Uderzo qui était venu à Angoulême. Il faut savoir qu'aussi maintenant, chaque année à Angoulême, ils remettent le prix Goscinny, en hommage à Goscinny, qui est un prix qui récompense un scénariste de bande dessinée.
Oui.
Donc voilà, Astérix et Angoulême, entre guillemets, entre les lignes, chaque année, évidemment, ça fait partie du patrimoine du 9e art.
Avec un 38e album que j'imagine vous attendez avec impatience aussi, Bernard-Pierre Molin, on va en parler, hein, de cette attente chaque fois.
Bah oui, c'est toujours un événement important quand il y a un album dans le monde de l'édition, quand il y a un album d'Astérix qui sort. C'est énormément c'est 5 millions d'albums, un Astérix. Donc c'est vraiment énorme. Et puis il y a une attente, on a toujours envie de savoir quel calembour, quelles inventions ils vont trouver, quoi.
Et alors qu'il faut citer les auteurs et dessinateurs actuels, Mathieu Charrier.
Oui, Conrad et Ferry qui ont repris le flambeau pour, là c'est leur 4e album. Et il disait 5 millions d'albums, dont 1 600 000 à chaque fois en France. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'un Guillaume Musso qui domine les ventes de romans, ça fait 5 600 000 ventes, Astérix, il en fait 3 fois plus à chaque fois qu'il sort. C'est énormissime. C'est-à-dire que c'est presque devenu un achat réflexe. Comme on irait acheter sa boîte d'œufs, on va acheter son Astérix à partir du moment où il sort. Pour l'avoir chez soi, pour le découvrir, on se l'offre, on se le donne, on se le passe. Parce que 1 600 000 ventes, vous comptez qu'il y a 2, 3, 4 personnes voilà, qui le lisent sur chaque album. Ça fait à chaque fois 7, 8 millions de personnes qui lisent le nouvel Astérix qui sort. C'est phénoménal.
Et qui parle Astérix. Merci Mathieu Charrier. Petite pause. Bernard-Pierre Molin vous retrouve, vous qui avez écrit Astérix, les vérités historiques expliquées. Julie est avec nous. Des petits extraits encore pour vous. Hein. Et puis n'hésitez pas à nous appeler si vous êtes fan aussi. Alors de BD d'Astérix en particulier, mais dites-nous ce que vous pensez de ce personnage.
Hein, 39-21, on attend vos appels.
À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Allez, retour dans l'univers d'Astérix. Ah, pourquoi Astérix est-il toujours moderne? Je peux lire le petit tweet de Renaud,
je vous en prie, sur l'hashtag Europe 1 autour
de
la question.
Précision pour Julie, dans Astérix, les prénoms des femmes n'ont pas de X, donc c'est juste Wendy.
Et Julie. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans les Astérix.
Non, il y a très peu de femmes, mais globalement, il y a très peu de personnages féminins dans les bandes dessinées des années 60 et 70.
Oui,
Astérix, il y a Falbala, qu'on connaît un petit peu, la femme du chef, voilà, mais ça s'arrête là. Elles sont rarement au centre de l'intrigue.
Dans Tintin, dans Lucky Luke, tout ça, il n'y a pas, beaucoup de femmes. Hein.
Très peu aussi.
Des aventures en tout cas d'Astérix qui ont inspiré tous les supports, on en parlait, les feuilletons radio, les dessins animés, classiques, en 3D, bourrés d'effets spéciaux, le film d'Alexandre Astier cartonne, 3,5 millions de spectateurs. Christian Clavier dans la peau d'Astérix, ça vous dit quelque chose. Depardieu dans la peau d'Obélix aussi, portant son bel arrondi. Et puis Jamel Debbouze en mission Cléopâtre, c'était juste pour vous.
S'il vous plaît, vous êtes Astérix, moi.
Rix, Astérix. Et lui, c'est Obélix.
Et le petit chien, là, c'est Idéfix.
Vous connaissez pas nos Obélix ? C'est un droïde.
de Dendroïd. Voilà, Jamel Debbouze dans ses œuvres. Alors, c'est pas facile à dire pendant un mix. En tout cas, voilà, le druide bienheureux qui est là album en album. Alors, ce que j'ai retrouvé, c'est que dans l'album de 1959, le druide a une canne. Et puis ensuite, finalement, Uderzo et Goscinny ont décidé de le rendre plus valide. Et puis, gambade. Voilà, il y a des petits détails comme ça.
Et d'ailleurs, dans le dernier dessin animé d'Alexandre Astier, vous savez que la base de l'histoire, c'est que Panoramix tombe d'un arbre, se casse donc la cheville et doit se trouver un remplaçant. Et au début, ça n'a pas du tout plu à Uderzo, cette histoire-là. Parce que qu'on abîme son personnage et qu'on puisse imaginer que ce druide qui est au centre de toutes les histoires depuis des décennies puisse être blessé, il a un peu tiqué. Finalement, Alexandre Astier a insisté et ça a donné ce dessin animé.
Et oui, il faut dire qu'il est très présent, Albert Uderzo, encore dans l'imaginaire. D'abord, il est bien vivant, et puis même s'il n'est plus au dessin, il est là, il veille sur sa créature.
Je peux vous dire qu'il surveille tout, et vous n'avez pas intérêt. Il nous avait expliqué, par exemple, que il y a quelque chose qu'on ne remarque pas dans Astérix, mais la particularité de son regard. Astérix, il a un regard qui est toujours souriant,
oui,
et visiblement
pétillant.
Et quand les auteurs ont repris le personnage, au début, ils n'arrivaient pas à faire ce regard pétillant. Et M. Uderzo reprenait chaque planche et disait « Non, ça ne va pas vous recommencer, il faut que son œil sourie. » Donc il veille à chaque détail, à chaque précision du dessin et de l'histoire sur les albums qui continuent de sortir.
Et au final, Bernard-Pierre Molin, vous qui avez écrit Astérix, les vérités historiques, expliquez qu'il y a de fans de ce personnage, bah vous trouvez qu'il traverse bien les âges, ce petit héros. Je ne sais pas si vous le qualifieriez d'ailleurs d'héros ou d'anti-héros, Astérix.
C'est un héros, c'est très nettement un héros. C'est, il a même, avec la potion magique, la caractéristique du super-héros, vu qu'il a des pouvoirs.
Oui.
Donc non, c'est vraiment un héros. Avec, vous le disiez tout à l'heure, Teigneux, le petit français moyen, tout ça, c'est un peu l'imagerie qu'on a, notamment à l'étranger, mais c'est aussi un personnage très bienveillant. Aussi.
Oui,
et
oui.
Même parfois paternaliste avec Obélix, où il lui dit mais tu manges trop, tu devrais pas que tu prennes de la potion magique. Il est un peu il est bienveillant quand même.
Oui, on parlait de l'empreinte d'Uderzo. René Goscinny disparaît en 1977 et Albert Uderzo ne cesse de dire, Mathieu Charrier, que ce héros, que la vie d'Astérix s'arrêtera avec lui. Est-ce qu'on peut y croire, vous qui connaissez un peu le personnage?
Disons qu'il disait déjà qu'il ne voulait pas que d'autres auteurs reprennent Astérix quand lui ne pourrait plus dessiner. Il y a Conrad et Ferry qui sont là, alors même s'il les surveille, qui sont là et qui
vont... Ils ont fait 4 albums.
C'est bientôt le 4e. Oui. Donc, c'est toujours difficile de savoir. Je pense que lui aimerait effectivement qu'Astérix s'arrête le jour où il disparaîtra. Après, derrière, il y a des éditeurs, derrière, il y a des héritiers. Il y a la fille de M. Goscinny aussi, Anne Goscinny, qui gère ça très bien et qui, elle, a envie que ce personnage continue d'exister aussi pour la mémoire de son papa. Donc, difficile de répondre à cette question. Mais c'est vrai que dernièrement, dans une interview au Parisien Magazine, il a dit clairement que lui aimerait que ça s'arrête.
Alors que les grands héros ne meurent jamais. En général, en BD, on a bien vu Lucky Luke, dont l'aventure est poursuivie.
Oui, alors après, c'est vrai que Lucky Luke, Boulet, on parlait de Boulet Bill, Spirou, etc., ces personnages qui très vite sont passés entre les mains de plusieurs dessinateurs et scénaristes. On a vu par exemple que Tintin, Hergé, avait décidé que ça s'arrêterait après sa mort, et pour le moment, ça s'arrête. Alors après, Tintin, il y aura une autre problématique, c'est que dans, je crois, une quarantaine d'années, ça va tomber dans le domaine public. Et là, les héritiers pourront plus l'empêcher qu'on reprenne ce personnage. Donc, comment vont-ils gérer la chose?
Voilà.
Est-ce qu'il vaut mieux anticiper et finalement faire ce que fait M. Uderzo, c'est-à-dire contrôler l'héritage et que ce soit bien fait? Ou est-ce qu'il vaut mieux tout bloquer, mais le jour où le blocage saute, on verra ce que ça donne.
On va s'interroger dans un instant sur ce qu'il reste d'Astérix et de son village gaulois en nous, 60 ans plus tard. Juste un petit mot avant la pause, Bernard-Pierre Molin. À côté d'Astérix, votre personnage préféré de la BD, c'est lequel?
Moi, j'aime beaucoup Bonne Mine, la femme du chef.
Ah, la fameuse, voilà, Bonne Mine, donc ouais. Pourquoi? Pour ses qualités arrondies?
Parce que elle se laisse pas faire. Parce que effectivement, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les BD de ces années-là, mais c'est un personnage quand même qui est excessivement autoritaire et qui dit à un moment « je ne suis pas ton esclave » et qui reflète assez bien la réalité de la femme gauloise qui était beaucoup plus libérée que les romaines.
On fait une petite pause et on retrouve François Durpère également, historien, enseignant-chercheur à Cergy-Pontoise, auteur de « Nos ancêtres ne sont pas gaulois contre l'histoire de France ». Eh bien voilà ce qui va nous intégrer dans le débat les uns et les autres. Avec Mathieu Charrier, spécialiste BD, et avec vos appels si vous le souhaitez. On vous attend, le standard est ouvert, Julie.
Au 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Voici la potion qui rend invincible. La potion magique qui décuple les forces.
Quelle est la recette de cette potion, oh druide?
L'origine de cette potion se perd dans la nuit des temps. Elle ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du gui et du homard.
Ça donne du bon goût, le homard. Et la voix de Roger Carrel, en effet, pour Astérix, pour le dessin animé premier du genre, supervisé, là encore, par Goscinny et Uderzo. Rien n'a été laissé au hasard. Mathieu Charrier, nous sommes en 1967. Depuis Astérix, c'est 380 millions d'albums vendus.
380 millions d'albums vendus, traduits dans 111 langues. C'est vous dire, c'est plus que Tintin.
Incroyable.
Alors, c'est un peu triché, entre guillemets, parce qu'il y a plus d'albums que d'albums Tintin, mais Tintin, c'est même pas 200 millions d'albums vendus dans le monde. Astérix,
puis
c'est
même surtout... pas.
Même
joueur.
Pas, c'est rien, vous voyez. Et puis surtout, oui, Astérix, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, ça continue de se vendre. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que ça s'essouffle même pas vraiment. Quoi.
Ouais, petit héros qui a fait durablement le tour du monde et qui continue. Bernard-Pierre Molin est avec nous. François Durfer, je vous accueille. François, bonjour.
Bonjour.
Historien, enseignant-chercheur à Cergy Pontoise, vous qui avez publié chez Albin Michel « Nos ancêtres ne sont pas gaulois, une contre-histoire de France ». Alors ce qui nous intéresse aussi, eh bien, c'est en effet notre descendance, notre lien avec ce petit héros. Qu'a-t-il d'Astérix en nous, François ?
Alors à peu près tout, sauf que Astérix, c'est le gaulois, mais c'est le gaulois qui est vu par les Romains. On n'a pas d'indication gauloise de ce qu'était le gaulois. C'est-à-dire que les Gaulois ne savaient pas écrire, tout simplement. Ce sont les Romains, et c'est en particulier dans la guerre des Gaules que l'on connaît les Gaulois, que l'on s'est fait une idée de ce Astérix. Et ce qui est très intéressant à relever, c'est que César, il a décrit le Gaulois en le valorisant. C'est normal, hein, les Romains, ils ont battu les Gaulois, et pour se valoriser, eh bien, ils ont en quelque sorte valorisé les valeurs du Gaulois en disant ben, ils étaient très courageux,
ils étaient
des combattants extraordinaires. Et donc, en quelque sorte, ben, ce Astérix, il nous vient d'un manuel romain et pas d'un manuel gaulois.
Ouais, c'est intéressant. Alors que les deux nouveaux auteurs écrivent pour le prochain album qui arrive dans quelques semaines.
Quelques mois,
le 38e. Nous avons souhaité prendre pour point de départ le fameux « Nos ancêtres, les Gaulois », ce que vous développez dans votre ouvrage, François Durfer.
Oui, alors nos ancêtres, précisément, ils ne sont pas gaulois, ou alors ils ne deviennent gaulois que très tardivement dans l'histoire, en deux temps. D'abord, c'est la Renaissance. La Renaissance, pourquoi ? Parce qu'il fallait affirmer la spécificité de la France par rapport à l'Italie, donc on a fait sortir le Gaulois comme notre ancêtre, mais c'est surtout au milieu du XIXe siècle, et avec un historien qui s'appelle Augustin Thierry, que les Gaulois sont revenus dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait opposer les Gaulois aux Francs, et les Gaulois, c'était en quelque sorte mettre en avant le peuple, hein, c'était les descendants du tiers-état. Donc c'est vraiment quelque chose qui est arrivé très très tardivement, mais ce qui est important de relever, c'est que c'est pas les Gaulois, nos ancêtres, c'est les Gallo-Romains. Parce que quand on regardait un manuel d'histoire, il y a nos grands-parents, quand ils apprenaient ça, nos ancêtres gaulois, il y avait Astérix. Mais Astérix, il s'était marié avec une Romaine, en quelque sorte, il était romanisé. Et puis, il ne parlait pas le celte, il parlait une sorte de dialecte bizarre, le latin. Et le latin, c'est devenu français.
D'où le succès d'Astérix Mission Cléopâtre, Mathieu Charrier, pour le grand public.
Ce jeu de mots.
Mais oui, de l'historien à l'écrivain, j'ai donné la parole à Bernard-Pierre Molin, parce que vous avez travaillé sur les vérités historiques expliquées dans Astérix. Quand on lit une BD d'Astérix, on apprend des choses réellement sur notre histoire, au-delà de l'intrigue et de l'humour qui est dessiné aussi le long de ces planches.
Alors, on apprend des choses. Déjà, on se familiarise avec un univers, un univers de fantasy, mais enfin, c'est quand même une époque. Mmh. Effectivement, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée, hein. Toute. Enfin, ou presque, il peut rester effectivement des petites poches de résistance, mais pas tout à fait comme celles qu'ont inventées les auteurs. Donc, on part d'un univers et puis on rencontre plein de gens. Et après, ils ont pris, Goscinny et Uderzo, énormément de liberté avec l'histoire. Pour prendre les deux exemples les plus emblématiques de Astérix, les Gaulois, ne taillaient plus de menhir depuis très très longtemps. Hein,
Obélix aurait donc été au chômage.
Ah, Obélix, il n'y avait plus ces c'était fini depuis 3000 ans quasi. Oui. Hein, l'esprit du menhir, c'était mort. Et les Gaulois mangeaient très peu de sangliers, voire pas du tout. Parce qu'en fait, les sangliers étaient des animaux sauvages qu'il fallait chasser. Donc, quand animaux sauvages, ils appartenaient à la forêt. Et donc, quand on chassait un animal de la forêt, il fallait rembourser le dieu par un sacrifice. Et vu que les Gaulois étaient d'excellents éleveurs, c'était beaucoup plus simple de plumer un coq ou de tuer un cochon, oui, que d'aller chasser un sanglier la chasse était réservée à une élite un peu de nobles, de l'aristocratie qui pratiquait ça comme un entraînement au combat.
En revanche, voilà, les banquets...
Pas de menhir, pas de sanglier.
Les banquets, oui. Les festins, oui. Les druides, oui. Tout ça est exact.
Les druides, oui, c'est... c'est exact, sachant qu'à 50 avant Jésus-Christ, l'influence des druides était sans doute déjà un petit peu en
déclin,
en descente. Mm. Ouais, c'était déjà un peu voilà, mais il y avait encore des druides effectivement, mais c'était pas les seuls personnages importants. Il y avait aussi les bardes, comme personne n'aurait songé à bâillonner un barde, c'était un personnage assez sacré aussi dans le monde gaulois, et les vades qui étaient un peu des devins plus voilà.
Tout ce qui crée le plaisir de la lecture et que vous expliquez bien les uns et les autres, Bernard-Pierre Molin, François Durper, Mathieu Charrier, je vous donne la parole dans un instant, alors qu'Astérix se fête ses 60 ans cette année, qu'un 38e album est en préparation. Dans un secret bien gardé, on va y venir justement, mais Astérix honoré à Angoulême, dans 2 jours, le festival BD s'ouvre et vous y serez, Mathieu. A tout de suite.
On a tous quelque chose en nous de Goscinny, faudrait que je dise pour que ça, pour que ça colle. Quelque chose en nous d'Astérix. En nous allez.
Oui, Astérix quand même, Astérix qui sera à l'honneur évidemment au Festival d'Angoulême. Vous y serez, Festival de BD, ça commence dans 2 jours, Mathieu Charrier.
Ça commence dans 2 jours, effectivement il y aura une grande statue d'Astérix qui va nous accueillir quand on arrivera à Angoulême, et puis tout un tas de petites animations. Il n'y a pas de grande exposition cette année à Angoulême, c'est... un petit peu plus pointu, on va dire. Une exposition sur Richard Corben, il y a sur Batman, sur Tom Tom et Nana, quand même, c'est assez sympa.
Ah ouais.
Mais effectivement, voilà, il y aura quand même l'ombre d'Astérix sur ce festival.
Nous sommes le 29 octobre 1959, lorsque ce petit héros naît, prépublié dans cette revue pilote et publié dans ce premier vrai album en 1961. Astérix qui a marqué la France, c'est certain. J'aimerais que vous écoutiez le président de la République d'alors. Nous sommes en décembre 1972. Georges Pompidou parle du programme commun de l'Europe.
Méfions-nous des panneaux réclames et des promesses illusoires. La potion magique qui décuple les forces d'Astérix n'existe pas.
Et voilà, c'est le président Pompidou qui en parle, c'est étonnant. Ouais, en 1972, ouais. Voilà, élément de notre patrimoine français, Astérix, François Durper, très clairement, ce petit Gaulois, pour réagir aux mots du président.
Bien sûr, très clairement, il y a d'abord effectivement Pompidou, puis ensuite, vous le savez, Sarkozy, qui va reprendre
oui, Sarkozy, hein,
qui va dire, moi je suis de parents hongrois, mais j'ai appris les Gaulois, il faut qu'on apprenne tous les Gaulois pour s'intégrer, et puis le Gaulois réfractaire de notre actuel président. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, évidemment, il n'y a pas une identité gauloise, faire des Gaulois l'ancêtre d'une identité nationale, c'est complètement anachronique pour l'historien, ça n'a pas de sens. Et puis la deuxième chose, c'est la résistance. Vous regardez tous ces présidents, ils parlent d'un Gaulois réfractaire. Pourquoi ? Parce que le Gaulois, c'est avant tout celui qui résiste aux Romains. Encore une fois, on a quelque chose en nous de Goscinny, mais Goscinny, lui, a quelque chose de la guerre des Gaules, de César. César, il décrit qui ? Il décrit un peuple qui lui résiste. C'est ça qui est vraiment central dans l'identité des Celtes.
Est-ce que vous diriez, parce que vous êtes à cheval aussi entre l'histoire et l'actualité, qu'il y a un peu de Astérix chez les Gilets jaunes, pour vous, François Durper, sans faire trop d'anachronisme ?
Oui, bien sûr, c'est anachronique. Pourquoi ? Parce que la résistance, l'esprit révolutionnaire, c'est bien 1789. Il n'y a pas de barricade chez les Gaulois. Mais l'important, ce n'est pas l'histoire, c'est la manière dont on la raconte. Et évidemment, ben, on s'enracine dans cette histoire-là. Et les Gilets jaunes, je pense que, vous voyez, ils ont repris la balle au bon. Hein, quand Emmanuel Macron a parlé de Gaulois réfractaires, ils ont dit chiche, effectivement, on est réfractaires. Mais en revanche, Il y a quand même un élément des Gaulois qu'on ignore un peu, c'est que c'est leur capacité d'adaptation au changement. Ces Gaulois, ils ont accepté les Romains. Et ils n'ont pas voulu tous se faire massacrer, ils se sont complètement adaptés à un autre mode de vie. En quelque sorte, Astérix, ou plutôt ses enfants, ils vont au terme, ils ont les mêmes loisirs que les Gaulois, ils vivent que les Romains, ils vont dans des villes qui ressemblent à Rome, qui sont des mini-Rome. Mmh. Et ce côté, si vous voulez, résistant, réfractaire, on l'a retenu dans l'histoire, mais le côté adaptation, si vous voulez, Emmanuel Macron, il pourrait dire, le Gaulois, il était adaptable, il s'est adapté au changement.
Voilà.
Donc là, en quelque sorte, c'est très anachronique.
Voilà, plus que les Gilets jaunes, peut-être adaptable, en tout cas, Astérix,
voilà. J'ai rien dit.
Non, je lis entre les lignes, François Durand.
Ne me causez pas de problème, s'il vous plaît.
Merci en tout cas, François, pour votre analyse et pour votre livre que je rappelle aux auditeurs. Nos ancêtres ne sont pas gaulois, contre Histoire de France chez Albin Michel. Encore quelques instants pour ce tour de la question sur Astérix, sa permanence, sa modernité, avec Mathieu Charrier et avec Bernard-Pierre Molin, qui a écrit Astérix, les vérités expliquées. Historique expliqué avec Julie, à tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Alors que débute ce jeudi le 46e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, nous mettons à l'honneur pour quelques minutes encore Astérix, le plus gaulois des Français, qui fête ses 60 ans, Wendy Bouchard.
Absolument, Julie. L'archétype du petit Français moyen, râleur, malin, débrouillard, voilà comme le qualifiait Goscinny, l'un de ses pairs avec Uderzo. Alors, Mathieu Charrier, vous qui connaissez bien la BD et qui êtes un fan en particulier d'Astérix, pour bien faire, pour bien entrer dans l'aventure et dans l'esprit des personnages, est-ce que vous recommandez de commencer par le début, par le tout premier album en l'occurrence?
Oui, c'est parce mieux. Que moi j'aime bien commencer par les premiers albums quand on est dans une série. Donc oui, basiquement, c'est assez basique.
D'abord,
comme réponse,
on voit les
personnages
évoluer.
Des personnages, d'où ils viennent, on les voit évoluer, on voit parfois évoluer un petit peu le dessin aussi, la manière dont l'univers, dont petit à petit les auteurs ont un petit peu plus de moyens, un petit peu plus de temps, donc comment ça s'enrichit. Donc oui, faire les albums dans l'ordre, tout simplement, comme Tintin d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne manière de rentrer dans l'aventure. Après, voilà, s'il y a un Astérix qui traîne chez vous...
Bien sûr, mais vous en avez lu 37, il y a un 38e qui arrive bientôt. Jamais déçu par les ajouts, par les nouveaux dessinateurs et scénaristes.
Si, parfois, mais ça c'est normal quand on tient ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, quand on avait vu débarquer des soucoupes volantes dans l'univers d'Astérix il y a quelques années maintenant.
Oui.
Bon, ça faisait un petit peu bizarre, là, on n'était même plus dans l'anachronisme. Après, voilà, il faut l'accepter et se dire que l'album suivant sera le meilleur. C'est pareil avec Black et Mortimer, c'est pareil avec tous les grands héros de bande dessinée. Il y a un moment, forcément, vous ne pouvez pas toujours être au top. Tintin, il y a des très bons albums de Tintin qu'on adore, d'autres qui peuvent être un petit peu en dessous. C'est pas grave, on aime quand même l'œuvre dans son ensemble.
Oui, c'est ce que vous pensez aussi, Bernard-Pierre Molin. C'est l'œuvre dans l'ensemble, c'est l'univers dans l'ensemble d'Astérix qui vous touche pour boucler la boucle de cette émission.
Oui, il y a l'univers effectivement qui est formidable, qui est d'une grande richesse. Après, il y a quelques albums qui sont des sommets, enfin qui sont.
Par exemple, alors pas, voilà, celui qui est en top pour vous.
Le domaine des dieux, le devin. La zizanie avec ce personnage là de Tullius Détritus, là c'est une invention formidable. C'est-à-dire que Goscinny et Uderzo ont inventé une galerie de personnages. Alors il y a le triple patte, le pirate latiniste, qui est quand même un oxymore. Enfin, c'est avoir un pirate, on pense totalement acculturé, et en fait c'est un puits de science et de citations latines, donc ça c'est vraiment très drôle. Et puis le petit personnage là, moi je l'adore, tu disais Détritus là, qui par sa simple présence et une demi-phrase arrive à faire que tout le monde s'engueule, c'est une invention formidable. Voilà, donc il y a un âge d'or, on va dire, entre 65 et 77, là jusqu'à la bande de Signe, il y a vraiment vraiment les plus beaux albums. Je crois.
Oui, bah, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre de la mort de son
oui,
compagnon,
bien sûr,
hein, Albert Uderzo.
Ouais, il dit que c'est le pire jour de sa vie, hein, tout simplement.
Ouais.
Et quand vous allez dans l'atelier de M. Uderzo, dans lequel il continue de travailler, vous avez sur son bureau la photo de sa femme et la photo de Goscinny. Ça résume tout
incroyable.
L'amitié qu'il y avait entre les deux.
Puis, dans Astérix chez les Belges, à la dernière image, il y a un petit lapin qui pleure. Et c'est une image du banquet,
c'est un hommage,
qui est le dernier album auquel Goscinny a collaboré. Il y a ce petit lapin qui pleure, qui est une façon de le saluer.
Oui, c'est émouvant.
C'est immense, monsieur.
Oui, une identité française aussi chez Astérix. Alors bien sûr, vous le qualifiez de super-héros avec cette potion magique, mais on est très loin des comics anglo-saxons, avec les Batman, d'ailleurs, dont on fête aussi l'anniversaire, Mathieu Charrier. Il y a quelque chose de suranné, quelque part, mais qui est beau dans Astérix aussi, dans la French Touch.
Oui, c'est exactement ça, c'est la French Touch, parce qu'à l'époque, effectivement, les héros américains des comics commençaient à débarquer, et eux, ils avaient tous des super pouvoirs quasiment dès leur naissance. L'intérêt d'Astérix, c'est qu'en plus, il ne résout pas tout grâce à la potion magique, c'est aussi grâce à son intelligence, grâce aux rencontres qu'il peut faire. La potion magique, c'est au moment du combat, ou quand il faut aller vite, ou quand il faut affronter les Romains et leurs boucliers. Voilà, mais il n'y a pas que ça, c'est pas que un héros de potion magique. D'ailleurs, c'est à mon avis la force des albums.
Oui, et c'est pour ça aussi que le français, le petit français Astérix est le plus connu au monde de l'univers de la bande dessinée quand même. Ça, c'est magnifique comme succès, Bernard-Pierre Molin.
Ah bah oui, c'est... Les albums s'ouvrent quand même sur une carte de France.
Et voilà, ça c'est beau d'imaginer que dans 111 langues et en 380 millions d'exemplaires, ça s'est partagé.
C'est quand même la première image, hein. Ça contribue indéniablement à une certaine grandeur de la France.
Au rayonnement. Bernard-Pierre Molin, merci de nous avoir accordé quelques instants depuis la Nouvelle-Zélande. On est navré pour vous qu'il fasse 30 degrés, vraiment, c'est très dur. Mais on compatit.
C'est très dur.
Merci beaucoup. Astérix, les vérités historiques expliquées. Merci Mathieu Charrier.
Avec plaisir.
On vous retrouvera à Angoulême dans deux jours. Oui. Vous suivez évidemment le festival pour Europe 1, comme depuis plusieurs éditions maintenant.
Oui, ça fait un petit moment, effectivement.
Vous qui êtes né là-bas en plus, voilà.
Oui,
figure locale.
J'ai pas trop le choix.
Merci Mathieu Charrier, ma chère Julie, je vous dis à demain.
À demain, Wendy.
Et portez-vous bien, le tour de la question revient.
À demain avec Wendy Bouchard, dans un instant, Anne Roumanoff.